Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir tout le monde, il est agréable de vous raconter de nouveau dans l'émission quotidienne en français de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par The Journal, suivi de la revue de Perse, l'histoire d'aujourd'hui et l'émission au point. Et après, nous vous présentons le rappel de titre de l'actualité.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Le président indonésien a reçu des hommes d'affaires russes pour discuter de la coopération. Rosneft va construire une raffinerie de pétrole Tuban. BID a mis en œuvre avec succès un certain nombre de programmes importants. Rizal Ramli a dit que l'Indonésie devait être considérée dans les affaires de temps. Le ministre des Affaires religieuses soutient l'initiative des musulmans indonésiens en Australie d'organiser la conférence musulmane. L'Indonésie élargit le marché sud-africain. Le Parlement encourage la diplomatie culturelle. Voici le journal complet. Le président Joko Widodo a reçu de grands hommes d'affaires russes dans le domaine de l'énergie et de la gestion d'investissement pour discuter de la coopération potentielle en Indonésie dans l'avenir. Le vendredi matin, le président a rencontré le président directeur général de l'entreprise de l'énergie et du pétrole et du gaz Rosneft, Igor Sechin, et le président directeur général de l'entreprise d'investissement Alpha Pacific Group, Oleg Gobulin, à Radisson Blue Hotel Sochi. Le président est accompagné par un certain nombre de fonctionnaires de l'État, à savoir le ministre coordinateur de l'économie, Darmin Nasution, la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, la ministre des Entreprises d'État, Rini Sumarno, le ministre du Commerce, Thomas Lembong, ainsi que le chef d'État-major du président, Teten Mas Duki. Dans la réunion du chef d'État indonésien avec Igor, ils ont discuté du plan de développement d'une raffinerie de pétrole à Tuban, est de Java. Au cours de cette réunion, Igor est accompagné entre autres par le directeur exécutif du Conseil d'affaires Russie-Indonésie, RIBC, Mikhail Kurchin, et le vice-président chargé du raffinage, la pétrochimie et la logistique, Didi Kasimiro, ainsi que l'ambassadeur de Russie-Indonésie, Mikhail Galuzam. La ministre indonésienne des entreprises d'État, BUMN, Rini Sumarno, a dit que la compagnie pétrolière et gazière russe Rosneft signera une coopération à construire une raffinerie de pétrole à Tuban, Java Est. La valeur de l'investissement atteint de 13 milliards de dollars américains. Cela a été déclaré par Rini Sumarno à Sochi, en Russie, après avoir accompagné le président Joko Widodo de recevoir la visite de courtoisie du directeur général de Rosneft, Igor Sechin, vendredi. Selon Rini Sumarno, la raffinerie de Tuban peut augmenter la réserve de pétrole national et peut aussi devenir une liaison commerciale de pétrole régional à quelques régions et dans les pays étrangers comme les Philippines. L'accord sera signé jeudi, la semaine prochaine, 26 mai. Rosneft engage également pour que la compagnie pétrolière indonésienne, PT Pertamina, puisse participer à la gestion des chambres de pétrole en Russie. Selon Rini Sumarno, actuellement, la Russie fait une étude de faisabilité à chercher des chambres de pétrole appropriées pour l'Indonésie. Le ministre indonésien des Finances, Bambang Brojonegoro, dans la conférence de presse de la 41e réunion annuelle de la Banque islamique de développement, BID, à Jakarta, jeudi après-midi, a dit « La BID a réussi à mettre en œuvre des programmes importants afin de soutenir son programme annuel. » Il a expliqué que l'existence de la BID avait été en mesure de soutenir l'Indonésie dans le développement national jusqu'à présent. À l'ordre du jour de clôture de la 41e réunion annuelle de la BID à Jakarta, il a été signé des accords entre la BID avec 14 pays membres pour donner un financement d'$1,6 milliard. Dans ce cas, l'Indonésie a obtenu la dette de $824 millions pour soutenir les programmes d'infrastructure, l'éducation et la centrale électrique. Le ministre indonésien de coordination maritime, Rizal Ramli, a affirmé que l'Indonésie avait une contribution significative dans les affaires du thon mondial avec environ 16% de la production totale du thon du monde vient de la mer de l'Indonésie. Rizal Ramli a déclaré récemment à Kuta, la résidence Bandung, Bali, que l'Indonésie devait être considérée dans l'affaire de thon. Sur la base des données officielles de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, en 2014, environ 6,8 millions de tonnes de thon et une espèce de thon ont été capturées par de nombreux pays dans le monde entier. L'Indonésie a réussi à fournir plus de 16% de la production totale mondiale avec la production moyenne de thon. La bonite en Indonésie a atteint plus d'1,1 million de tonnes par an. Selon lui, la valeur économique du commerce des produits de la pêche thonnière indonésienne est très grande et devient des opportunités d'être utilisées. Le ministre des Affaires religieuses, Lukman Hakim Saifuddin, soutient et apprécie l'initiative des musulmans indonésiens en Australie qui se tiendront la conférence musulmane en Australie. La conférence, qui sera tenue du 23 au 25 septembre 2016 à Melbourne, sera assistée par les musulmans indonésiens en Australie, des représentants des musulmans du monde et le gouvernement local. Lukman Hakim, lors de recevoir le directeur du projet de la conférence des musulmans indonésiens en Australie, Diski Naim à Jakarta, apprécie cette initiative parce que c'est une première conférence des musulmans indonésiens en Australie. Selon lui, cette conférence était très stratégique et pertinente à la condition de vie de la société et de l'État aujourd'hui, non seulement en Indonésie et en Australie, mais aussi dans le monde. Le Centre de la promotion commerciale de l'Indonésie, ITPCI de Johannesburg, élargit le marché de l'Afrique du Sud en organisant des réunions entre la communauté musulmane qui peut accroître la promotion des produits indonésiens. La Chambre de commerce Minara de Durban est connue comme la plus grande communauté d'entreprises musulmanes à Durban. Nous avons établi des communications plus étroites pour promouvoir des produits indonésiens dans la région de l'Afrique du Sud, a déclaré le chef de l'ITPC Johannesburg, Pontas Tobing, dans un communiqué reçu à Jakarta vendredi. Le Centre de la promotion commerciale d'Indonésie, ITPCI de Johannesburg, invite le membre de la Chambre de commerce Minara à participer à la 31e exposition commerciale indonésienne qui aura lieu du 12 au 16 octobre 2016 à Jakarta, en Indonésie. Le Parlement de la République d'Indonésie encourage la diplomatie culturelle efficace parce que l'Indonésie a une belle culture et diversifiée. Il a été dit par le vice-président du Parlement, Fadli Zon, lors de la visite du groupe Sumatra West Talenta dans le bâtiment du Parlement Senayan, Jakarta, vendredi. Cette visite vise également à demander du soutien du Parlement, car 20 personnes indonésiennes participeront au festival Tongtong aux Pays-Bas. Selon Fadli Zon, ce festival est bon parce qu'il est en mesure d'apporter l'Indonésie dans les activités de la diplomatie internationale. Il soutient la participation des gens de talent qui apporteront une mission culturelle au Zimbabwe et aux Pays-Bas dans ce festival de Tongtong. Serge Ritter, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
De divers événements importants qui se sont passés dans la semaine sont résumés dans la revue de presse, étant compilés dans nombre de journaux à Jakarta. Premièrement, le quotidien Kompas a écrit dans son éditorial sur la tâche lourde de Novanto. L'ancien leader du Parlement, Setia Novanto, a enfin réussi d'être leader général du parti Golkar pour la période de 2016 au 2019. Il a atteint 277 votes, éliminant le leader du Parlement, Ade Komarudin, qui n'a atteint que 173 votes. L'élection de Setia Novanto a été prévue, bien que pour certaines parties, c'est un pari politique pour Golkar. Restaurer l'image politique et stimuler les votes du parti Golkar dans l'élection 2019 est l'image de Novanto, le devoir lourd porté par le nouveau président du parti Golkar. Selon Kompas, en dépit de toutes les controverses, toutes les parties sont reconnaissantes que Golkar a mis fin au conflit administratif assommant. C'est un lourd devoir de Setia Novanto ensemble avec le secrétaire général Idrus Marham et Nurdin Halid en tant que président exécutif de consolider la partie interne et fixer la perception du public à lui et au parti Golkar. Ensuite, l'éditorial du journal Tempo a écrit sur la sanction sévère vers Lion Air. Le gouvernement doit sévèrement sanctionner Lion Air dans le cas de la fuite des passagers internationaux de la vérification d'immigration à l'aéroport international Soekarno-Hatta. L'évaluation sur la procédure d'opération de terre à l'aéroport doit également être faite, car il y a des lacunes qui mettent en danger la sécurité nationale. L'erreur a eu lieu le mardi 10 mai dernier, lorsque l'avion Lion Air GT-161 a atterri en provenance de Singapour. Conformément à la direction du guide de la circulation aérienne, l'avion est stationné dans une zone éloignée adjacente à l'avion qui est arrivé de Padang. 182 passagers ont été transportés par 4 bus, mais un bus se transforme, débarqué des passagers au terminal domestique. Un total de 16 passagers qui ont perdu pouvaient librement sortir du terminal domestique sans contrôle de l'immigration. Bien que l'erreur a été réalisée et les passagers ont été amenés au terminal international, 4 d'entre eux sont disparus, y compris un citoyen de la Hongrie. La sanction pour Lion Air dépendra au résultat des enquêtes du Directorat général du transport aérien, le Directorat de l'immigration, le ministère de la Loi et des droits de l'homme et le Directorat des douanes du ministère de la Finance en référence à la loi du vol numéro 6/2011 sur l'immigration. Selon le journal Tempo, étant donné la prolifération du terrorisme partout dans le monde, la perte d'une personne de la surveillance de l'immigration pourrait être une grave menace pour la sécurité. Terminons la revue de presse avec l'éditorial du quotidien Média Indonésia qui a écrit sur l'éradication de la mafia judiciaire. Sur l'existence de la mafia judiciaire dans la Cour suprême, est entendu depuis longtemps. L'effort de la Cour suprême pour combler les fraudes des écarts semble modeste. Préambule seulement. La preuve, il n'y a pas longtemps que la commission de l'élection a arrêté 2 personnes qui acceptaient de peau de vin d'être des dossiers. P qui sont tendus de la mafia judiciaire à la Cour suprême. De l'enquête initiale, le cas d'arrestation conduit à la participation des personnes clés de la Cour suprême. Selon Média Indonésia, jusqu'à présent, la commission est encore difficile de recueillir des preuves en dépit d'une forte suspicion de la participation du secrétaire de la Cour suprême dans divers actes de corruption dans cette institution. Malgré cela, toutes les parties espèrent beaucoup que la commission ne se découragea pas. La mafia judiciaire doit être exposée à la fin amère. Les étapes fermes de la Cour suprême pour éliminer les échappatoires détournements sont également prévues. C'est l'opportunité de la Cour suprême à restaurer la confiance publique dans le système judiciaire. Chers amis, c'était la revue de presse.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs et auditrices du monde entier, nous allons vous raconter dans notre programme aujourd'hui dans l'histoire de la Voix de l'Indonésie. Nous allons commencer le 21 mai 1918. Suharto se retire. Après 30 ans d'un règne sans partage, le président général indonésien Suharto, sous la pression du Parlement, donne sa démission et remet le pouvoir à son vice-président Yusuf Habibie. Le pays souffre alors d'une grave crise économique et sociale. En 2000, une enquête judiciaire pour corruption est ouverte, mais les poursuites seront abandonnées à cause de l'état de santé de Suharto. En chance, le 21 mai 1991, l'ancien premier ministre indien Rajiv Gandhi a été assassiné dans un attentat suicide dans le Tamil Nadu en Inde. Rajiv Gandhi Ratna est né à Mumbai en Inde le 20 août 1944, l'aîné des enfants Indira Gandhi et Feroz. Rajiv était le 6e premier ministre de l'Inde et le 3e de toute sa famille, de son grand-père Jawaharlal Nehru et Indira Gandhi, qui est mort sur octobre 31 1984 jusqu'à le remplacer le 2 décembre 1989 à l'élection. Rajiv Gandhi a le poste de premier ministre de l'Inde quand il avait 40 ans. Il peut donc être considéré comme le plus jeune premier ministre dans l'histoire de la politique en Inde. Rajiv Gandhi a épousé Sonia Gandhi. Il a été tué par les séparatistes tamouls Rajaratnam Tenmuli qui drapa sa fleur au-dessus de son cou qui s'est avéré contenir une bombe. Entre 1921 et 1904, création de la FIFA. La Fédération internationale de football association ou FIFA est fondée à Paris par 7 pays européens. Jusqu'en 1909, la FIFA ne comptera que des associations européennes. Les premiers membres non européens seront l'Afrique du Sud en 1910, l'Argentine et la Chili en 1910, les États-Unis en 1913. C'est le début des activités internationales de la FIFA. Face à ces difficultés et aux différences au niveau entre l'Europe et les autres continents, le premier Coupe du Monde ne pourra être organisé qu'en 1930. La FIFA compte aujourd'hui plus de 200 pays membres. Chers auditeurs, c'était notre programme aujourd'hui dans l'histoire de la Voix d'Indonésie à Jakarta. À demain.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis, bonsoir. Voici donc la mise au point et pour le titre « La coopération entre l'Indonésie et le Japon dans le domaine de la santé ». La coopération entre l'Indonésie et le Japon a eu lieu non seulement entre les gouvernements, mais aussi entre les secteurs privés et publics. Dans le domaine de la santé, le Japon a le partenaire, l'Indonésie, pour améliorer les compétences des infirmières en offrant des bourses. L'association de l'infirmière médicale Japon-Asie, JAMNA, soutenue par une institution de consultation des ressources humaines au Japon, Valley Concierge Corporation, l'association d'amitié Indonésie-Japon, PPIJ, et Kaiku Clinic Senayan ont fourni les bourses de JAMNA. Top Career Global Scholarship 2016 à 5 étudiants de l'Université d'Indonésie. Ils ont un étudiant de la faculté de médecine, deux étudiants de la faculté de sciences infirmières et deux étudiants de la faculté de santé publique. Les bourses de 20 millions par an et par étudiant sont délivrées directement, symboliquement par Hirohisa Kawahara, président de JAMNA à l'Université d'Indonésie d'Epoch mercredi, assisté par le directeur des affaires d'étudiants de l'Université d'Indonésie, Arman Nefi, et la secrétaire générale de l'Association de l'amitié Indonésie-Japon, Heru Santoso. C'est la première bourse fournie par JAMNA en Asie. JAMNA est une association sans but lucratif établie par le médecin Hirohisa Kawahara en 2013 à Nagoya au Japon. La fondation de cette association vise à aider les gens en Asie dans l'amélioration des connaissances et des compétences de chacun liées à la science du traitement médical et des infirmières. La mise en œuvre est faite entre autres par des programmes d'échange de personnel de santé et le don des bourses. Les citoyens asiatiques sont élus pour suivre une formation au Japon, alors que les étudiants asiatiques ont reçu des bourses pour apprendre les sciences de traitement médical et des infirmières dans leur pays respectif. L'existence de JAMNA a beaucoup de soutien des entreprises au Japon, dont la majorité s'occupe du domaine des soins de santé. L'Indonésie a envoyé beaucoup d'infirmiers au Japon dans le cadre de l'accord de partenariat économique EPA. En outre, JAMNA emmène également des néphrologues de l'Indonésie pour suivre la formation pendant 2 mois au Japon. Ces médecins sont placés dans les cliniques hémodialyse de Kaikukai, l'hôpital Kaikukai et l'université de Nagoya. Maintenant, il y avait déjà 7 médecins indonésiens qui ont assisté à cette formation. Sergita, c'était la mise au point pour ce soir.
Les informations et événements de la semaine proposés au programme Mise au point. La beauté culturelle et touristique indonésienne peuvent être prouvées dans le programme de la beauté indonésienne.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers auditeurs. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation, ainsi que les arts et la culture de diverses régions en Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous présenter Rujak Bulung de Bali. Serditeur, Bali est bien connu avec des belles plages et de la nourriture typique qui peut secouer votre langue. L'un des aliments typiques est rujak bulung. Rujak bulung est fabriqué à partir d'algues. La plupart des produits d'algues de cette île est pour l'exportation. Les Balinais utilisent également des algues pour diverses nécessités, notamment pour la fabrication de divers aliments comme rujak bulung. Serditeur, bulung dans la langue balinaise a le sens des algues qui ont de nombreux avantages pour notre corps. En outre, il est riche en fibres, la chlorophylle qui peut désintoxiquer le corps. Bulung ou d'algues peuvent être traités pour être différents aliments comme rujak bulung. Rujak bulung est la nourriture qui est recherchée et aimée par les touristes. Il est parce que le goût de bouloum qui est difficile à mâcher, mais lisse si elle est consommée. Si cette algue est faite rujak, vous pouvez imaginer sa délicatesse. Sagita, les algues qui sont faites pour rujak ont la couleur verte et en forme de feuille de pain, mais elles ont un sac contenant la liquide, en dents de scie et ont la taille de l'index. Ensuite, l'algue fraîche est mélangée avec de jeunes noix de coco râpées et condiments dont le niveau d'épicé est approprié avec votre appétit et aspergé avec la soupe de la tête de poisson. Rujak peut également être ajouté avec des tranches de ketupat lorsqu'elle est servie. Combiné épicé, salé, un peu sucre et frais est servi dans une portion de rujak bulung où il est également appelé rujak boni. Vous pouvez trouver rujak bulung à l'étal sur la route Tukad, Pakarisan, Denpasar, Bali. Cet étal est ouvert jusqu'à 22h heure locale. Pour faire rujak bulung, il n'est pas tout à fait difficile. Il est fabriqué à partir d'algues fraîches, le sel, le poivre de Cayenne, la pâte de crevette, Camphoria galanga, jeune noix de coco râpée et la sauce pindang. Pour faire rujak bulung, d'abord, le poivre de Cayenne est raffiné. Ensuite, ajoutez la pâte de crevette, de Camphoria galanga et du sel. Après cela, ajoutez 5 cuillères à soupe de sauce pindang et mélangez bien. Pour servir, bouillez l'eau et entrez le bulung ou d'algues pendant un certain temps. Ensuite, soulevez-le et mettez directement dans l'eau glacée et bien égouttez. Mettez bulung sur la plaque, mélangez la jeune noix de coco râpée et l'assaisonnement de rujak. Puis mettez l'assaisonnement sur bulung. Pour le rendre plus délicieux, donnez du jus de citron vert et la dernière, aspergez la sauce de pindang et cette alimentation est prête à être appréciée. Chères auditrices et chers auditeurs, c'est le magazine culturel pour ce soir avec le titre Rujak Bulung de Bali. Demain, nous nous retrouverons avec un nouveau sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles. Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec la rubrique de l'Indonésie en couleurs. Ce soir, nous discutons sur l'abolition du système 3 en 1 à Jakarta. Donc, restez toujours avec nous, la voix d'Indonésie. Trois en un est une réglementation de la circulation qui est née dans la gouvernance de l'ancien gouverneur de Jakarta, Sutioso. Cette politique limite le passage de la voiture, en particulier dans une zone spécifique appelée zone restriction de passagers. Dans la zone 3 en un, c'est seulement des voitures ayant 3 passagers ou plus qui sont autorisés à passer. La zone 3 en 1 applique dans les rues Sisingamangaraja, Sudirman, Tamrin, Medan Merdeka Barat et partiellement de la rue Gatot Subroto. Initialement, cette politique ne concerne que le matin, à savoir 7h à 10h. Plus tard, elle est ajoutée d'être 7h à 10h et 16h à 19h, en même temps avec le début du programme Transjakarta en décembre 2003. Puis le temps d'après-midi est changé à 16h30 jusqu'à 19h le septembre 2004. Cette politique est valable uniquement du lundi au vendredi. Les samedis, dimanches et jours fériés ne sont pas applicables. Le lundi 16 mai dernier, la politique 3 en 1 est abolie. Cette décision a été prise après l'essai de l'élimination de 3 en 1 mené quelques semaines dernières. Cette décision a été prise après une réunion avec le Forum de trafic Jakarta le mardi 10 mai dernier. Le forum contient le Bureau des transports de Jakarta, le Directorat de la circulation de police régionale Metro Jaya, Organda, le Conseil des transports de Jakarta, la Société indonésienne de transport, un élément académique, unité de police de l'ordre public, aussi bien le maire concerné. Une des raisons de l'enlèvement est la règle n'apporte pas le changement significatif dans la densité du trafic sur le site d'application de 3 en 1. La politique 3 en 1 existe ou non, il y a toujours les embouteillages. Mais le problème social sous la forme d'exploitation des enfants d'âge scolaire qui est devenu un jockey a finalement disparu. Dans le progrès, 3 en 1 a en effet fait apparaître le jockey qui accepte l'argent pour participer au autostop dans la voiture ayant moins de 3 passagers. L'émergence de ce jockey qui pose un problème de l'exploitation des enfants en période d'embouteillage reste insurmontable. Enfin, le gouvernement de Jakarta a commencé à faire l'essai de l'élimination de 3 en 1 pendant 2 semaines au début d'avril pour voir les changements au terrain. Cet essai a été prolongé jusqu'au 14 mai en voyant les résultats de l'évaluation des 2 sources, à savoir l'étude de la circulation pour le test et interroger les résidents. Il n'y avait aucun changement significatif dans le trafic dans la zone des restrictions des passagers. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le programme musical. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voe.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Dans cette édition, nous allons vous présenter une chanteuse pop s'appelle Syahrini. Syahrini ou Fatima Jilani Rini est née à Bogor le 10 août 1982. Depuis le début de sa carrière à ce jour, Syahrini a sorti 4 albums. Bon, serviteur, avant de connaître plus loin, nous allons entendre sa chanson intitulée Cetar. Bonne écoute.
aku tersiksa, kau cetarkan hatiku. Kali ini aku kena cintanya. Kali ini aku kena rayunya. Semakin cinta, aku semakin mencinta.
C'était la chanson de Shahrini intitulée Tchitar. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voi.co.id et nous vous invitons également à rejoindre La Voix de l'Indonésie sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voiindonesia. Serviteur, la chanson intitulée Tchitar est dans son quatrième album intitulé Princess Shahrini. Cet album est sorti le 27 janvier 2016. Il y a 6 nouvelles chansons et 4 vieilles chansons. Ce quatrième album a été lancé après que Shahrini soit vide pendant 4 ans. Elle a dit que l'album était son rêve parce que, selon elle, il y a eu beaucoup de rêves qui ont été réalisés grâce au travail dur. En outre, cet album était une preuve de Shahrini qu'elle n'est pas seulement célèbre à cause de la sensation, mais elle a les œuvres significatives pour la scène de la musique indonésienne. Bon, Serge Tor, étant donc mettons la chanson suivante de Sarini intitulée comme ça. Bonne écoute.
Boom, shake, 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 boom. Boom, shake, 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 boom.
Sedikit-dikit kamu marah. Aku makin cantik kau marah. Maunya kamu aku diam tak kemana-mana. Bagai burung dalam sangkar. Seperti itu. Jadi buah si malakama. Aku cinta tapi terkekang. Maunya kamu aku diam tak boleh bersolek. Jangan sampai tambah cantik. Seperti itu. Seperti itu. Kau punya pacar janji.
Boom, shake, 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 boom.
Dimanapun banyak yang
boom,
suka.
Boom, shake, 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 boom.
Kau ikuti aku terus sampai ku susah bergerak. Maju, mundur, maju. Cantik, cantik. Cantik kau marah. Maunya kamu aku diam tak kemana-mana. Bagai burung dalam sangkar. Seperti itu. Jadi buah si malakama. Aku cinta tapi terkekang. Maunya kamu aku diam tak boleh bersolek. Jangan sampai tambah cantik.
Je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans le programme Le Magazine Musical avec une chanteuse, Sahrini. La chanson intitulée comme ça est dans l'album Princesse Sahrini. Le 30 janvier 2016, cette chanson est officiellement publiée simultanément dans des dizaines de la radio indonésienne. La chanson comme ça est composée par la chanteuse et compositeur fiable d'Indonésie nommée Meli Guslau. Le processus d'enregistrement est sous le label Plan Record. Avant la sortie de la chanson, la lyrique officielle du clip vidéo était diffusée à travers les médias sociaux, tandis que le clip vidéo officiel a été publié le 26 mars 2016. Bon, Serge Tor, avant de terminer notre programme, voici les chansons de Sahrini intitulées Grand rêve et Vous n'avez pas de cœur. Bonne écoute et au revoir.
From a grain of sand to a castle in the sky, nothing can stop this giant, this fighter. This time we will never quit running. There was no more walking away. Nothing can stop this giant, this fighter. This time we
living brighter. Yeah, we're climbing now, we know our power. It is in the love we share. Nothing can kill this fire. Living brighter. Yeah, we're climbing.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes, 15 150, 9 525 et 11 785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Tak biasa bila ku tidur tanpa. saat hati tak berdaya. Ku kuat hanya karena cinta yang membara di dalam dada hanya untukmu. Berjanjiku menjaga sampai mati, walau berat jalannya, aku bahagia. Ku di sini berdiri karena cinta, bertahan untuk bahagia, hanya untuk cinta. Ku di sini akan selalu menunggumu, akan selalu menjagamu seumur hidupku.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4S5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta, 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.